Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
La barrière de la langue, c'est difficile pour tous les migrants, savoir se diriger dans un pays que l'on ne connaît pas. La difficulté des services administratifs, mais tout ça se complique encore lorsque l'on doit consulter un médecin, expliquer ses maux, M-A-U-X, ses douleurs, ou aborder des sujets plus intimes comme la sexualité, la contraception par exemple, se faire prescrire des médicaments pour un traitement récurrent, se faire comprendre prend tout son sens lorsque l'on aborde un sujet médical. Alors aujourd'hui en France, il est possible d'avoir des interprètes dans les consultations médicales, dans certaines maternités, PMI, caisse primaire d'assurance maladie, centre de planification et d'éducation familiale, mais aussi dans certains services administratifs. Alors, comment accéder au service d'un interprète pour une consultation dans sa langue maternelle ou obtenir un service de visioconférence avec une entreprise d'interprénariat? On en parle avec nos invités ce matin. Et le premier à nous rejoindre sur le plateau de la radio africaine, c'est Aziz Tabouri. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la société ISM Interprétariat. C'est Inter-Service Migrant Interprétariat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va nous rejoindre normalement dans un petit instant. Siad Dionou, il est médiateur de santé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et de temps en temps, il se livre également à l'exercice d'interprète. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation, Aziz Tabouri. Tous les patients dont le français n'est pas leur langue maternelle ont le droit en France d'être compris, mais aussi de comprendre et avoir accès aux soins et à la prévention comme l'ensemble de la population. Alors la nécessité de recourir à un interprète professionnel lors des consultations médicales avec des patients a été reconnue et inscrite dans le droit français par la loi de modernisation du système de santé en 2016. Ça veut dire que c'est devenu un droit. Bonjour et merci de nous rejoindre.
Bonjour, et je suis très heureux d'être parmi vous sur cette antenne d'Africa numéro 1 que j'écoute très souvent avec grand plaisir, et on y apprend des choses qu'on ne trouve nulle part.
Le plaisir est partagé, bienvenue.
Alors effectivement, donc je suis directeur de l'association ISM Interprétariat, dont l'objet depuis la création de l'association, c'est d'être une interface entre les professionnels des services publics français, ceux des soins et tous les autres, d'une part, et les personnes d'origine étrangère qui ne parlent pas ou qui ne parlent pas encore le français.
Alors oui, justement, moi je parlais de la loi aussi, puisque depuis cette loi de modernisation du système de santé en 2016, l'interprétariat est devenu un droit en France.
C'est pas tout à fait exact. La loi dite Touraine, que vous venez de rappeler, préconise le recours en situation de soins à des interprètes professionnels. Ouais. Ça n'est pas encore un droit au sens qu'on peut le revendiquer. Ça n'est pas encore une obligation pour les établissements de soins de recourir à un interprète professionnel quand il rencontre un patient ou sa famille et qu'il y a besoin de communiquer dans une langue que le patient ou la personne étrangère comprend. Alors chacun d'entre nous, vos auditeurs en particulier, bien que par définition francophone, comprennent qu'il y a des situations où on ne s'exprime correctement que dans la langue qui nous a bercé, la langue qui nous a fait grandir, voire dans la langue qu'on a entendue dans le ventre de nos mamans. Et précisément dans situation de soins, il y a ces situations où la charge émotionnelle est forte.
Ouais.
Annoncer à un malade un diagnostic difficile, une maladie grave, annoncer un décès,
parler de certains sujets tabous, la sexualité.
Déjà la charge émotionnelle. On ne peut pas annoncer à quelqu'un qu'il a une maladie potentiellement mortelle et puis repartir, quoi.
Donc la personne se heurter aussi à une barrière, en fait, puisque si la personne ne comprend pas tous les termes, elle peut par exemple exagérer les choses ou peut-être aussi les rendre minimes alors que c'est une maladie qui est importante.
Tout à fait, c'est-à-dire encore sur ce point-là des maladies graves ou de la mort, c'est que même quand on comprend la langue de français à français, il faut un temps pour absorber le choc.
Ouais.
Et donc il y a à ce niveau-là déjà une problématique de communication humaine à annoncer des choses difficiles. Qu'en est-il évidemment quand la personne ne comprend pas le français ou mal? pourrait avoir un niveau de français suffisant pour faire ses courses.
Comprendre les subtilités, mais comprendre, le jargon médical.
Exactement, c'est très difficile. Donc c'est là qu'il y a nécessité de recourir à un interprète professionnel formé pour comprendre, pour traduire, souvent pour expliquer dans la langue de la personne. Moi, je suis de langue maternelle kabyle, donc ma langue maternelle est considérée comme dialecte. En tous les cas, dans ma langue maternelle, comme beaucoup de langues africaines, on n'a pas le vocabulaire médical, juridique, administratif.
Ouais.
Donc il faut vulgariser pour que le patient comprenne. Pour cela, il faut que l'interprète soit lui-même formé pour qu'il comprenne. Donc il y a ce que vous disiez à l'instant, effectivement, les autres situations, parfois pittoresques, on doit expliquer au-delà des mots, les nuances.
Ouais.
Les nuances de la langue, les nuances de la culture,
mm-hmm.
les normes. Une chose peut être dite en français sans avoir beaucoup d'importance, mais
ouais.
transporter mot à mot dans l'autre, ça peut être catastrophique. Et donc, c'est à tous ces croisements-là, de l'incompréhension, de la langue, de la culture, des décalages de niveau de compréhension, que nos interprètes interviennent pour faciliter la communication. Vous savez également, il y a des sujets tabous.
Ouais.
Même de français à français, si je puis dire, c'est toujours délicat de parler de la sexualité, d'aller en consultation gynécologique, de parler d'impuissance, etc. Et en présence d'un tiers, l'interprète, c'est encore plus difficile.
Parce que souvent, on a recours à nos enfants, par exemple, lorsque l'on a un problème, il y a la barrière de la langue, ou un proche qui accompagne les personnes devant le médecin. C'est une relation à trois qui est assez complexe et qui peut détériorer, on va dire, ultérieurement les rapports entre les personnes. Par exemple, moi, si c'était mon cas avec mon enfant dans un cabinet médical, je serais peut-être mal à l'aise de parler de sexualité.
Complètement.
Ouais.
Et l'enfant n'a pas à connaître la sexualité de ses parents. Ou des problèmes conjugaux de ses parents. C'est absolument exact. C'est pour ça que la loi de modernisation de la santé préconise le recours à des interprètes professionnels et non pas à des interprètes dits de fortune, qui peuvent être des voisins, des accompagnants, une personne qu'on a trouvée dans la salle d'attente et, plus grave, des enfants. Chaque personne a d'abord le droit à son intimité.
Ouais.
Donc, une femme témoignait une fois pour nous dire « j'ai des choses que je dis à mon médecin, je ne dis pas à mon mari
ouais. ».
Et donc, c'est très important pour ne pas altérer la relation de respect, de confiance, et puis chacun doit rester dans son rôle, que dans toutes ces situations, on ait recours à un interprète formé, professionnel, donc où il n'y a pas de lien d'altération possible, payé par l'administration, là, par l'hôpital. Donc, il n'y a pas non plus de lien qui nous mettrait en situation d'être redevable d'un service ou de le payer. Et c'est le sens de cette loi qui recommande aux médecins, pour la bonne administration de la santé, pour les droits des malades, de recourir à des interprètes formés, non pas à des accompagnateurs ou à des enfants.
Alors justement, ce métier d'interprète, métier de l'interprétariat médical et social, c'est important de rappeler que c'est une profession à part entière, puisque ces personnes sont formées, qu'il y a, voilà, que c'est un vrai métier.
Je suis impressionné par votre connaissance du sujet. Je vous en remercie, vous en félicite. Tout à fait. Alors, c'est un métier auquel nous avons progressivement et modestement, mais vraiment très sûrement, contribué à faire de plus en plus reconnaître. À la base, en 1970, quand l'association a été créée par ceux qui l'avaient créée à l'époque, l'idée était toute simple. Il y a des travailleurs immigrés qui viennent, ils ne parlent pas le français, ils viennent de pays nouvellement indépendants, que ce soit l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique du Nord. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? C'est là l'idée de base.
D'accord.
La deuxième, à partir de là, c'est on va les aider non pas dans leur espace privé, mais dans l'espace public, pour qu'ils accèdent à l'égal de tout autre usager ou patient à leurs droits. Et donc, il nous faut des personnes qui parlent la langue. Très bien. Donc, cette idée, après, s'est déclinée pour dire, non, ça ne s'improvise pas. C'est un vrai métier. Il faut des formations. Il faut de la rigueur. Quand vous êtes attendu à 9h à l'hôpital, vous ne pouvez pas dire « j'y vais pas parce que je suis bénévole ». Non, il faut y aller. Et donc, qui dit professionnel dit d'une part que la personne est formée D'autre part, la personne est rémunérée, elle est payée. Et nous avons également posé le principe que ce n'est pas aux migrants qui ne parlent pas le français de payer le service, mais c'est à la société, à l'hôpital, au service public de le payer. Donc on a construit des formations autour de ça, qui consistent principalement en deux troncs, en deux choses. D'une part, le métier de l'interprète lui-même, quelle que soit la profession ou les nuances où il s'exerce, que ce soit à l'ONU, au Conseil de l'Europe, en délégation internationale, dans des colloques. L'interprète, c'est ce tiers professionnel de la langue et des thèmes abordés qui doit être neutre. Il y a des règles déontologiques à respecter, des règles de secret médical, des secrets professionnels, de distanciation. Ça, c'est dans toutes les situations. Mais alors nous, on est dans le champ médical et social et administratif. Se rajoute la question des cultures, parce qu'évidemment, les personnes pour lesquelles nos interprètes sont sollicitées, ce sont des personnes toutes simples, des demandeurs d'asile, des mamans qui viennent accoucher en maternité, vraiment des gens ordinaires. Ça n'est pas pour des ministres, ça n'est pas pour des présidents, ça n'est pas pour des délégations de chefs d'entreprise, c'est des gens tout simples. Donc c'est pour ça que le poids des dialectes dans les 182 langues que couvre notre association est très important. Dans l'interprétariat international, on n'a pas besoin de 182 langues. Les 6 langues reconnues à l'ONU sont donc au nombre de 6. Prenez notre continent africain, ce sont des dizaines et des centaines de dialectes, mais les langues officielles...
Est-ce qu'on peut les compter?
On ne peut pas les compter, mais en tous les cas, les langues officielles, si.
Alors, outre la maîtrise des deux langues à traduire, donc le français et la langue maternelle, l'interprète possède également d'autres compétences, savoir également les cultures du pays d'origine, bien les maîtriser également, et aussi celles de la société française, vous le disiez tout à l'heure. Alors, au téléphone, nous rejoint Sié Dionou, il est médiateur de santé à l'hôpital de la Pitié et Salpêtrière, et des fois, il est même interprète. Bonjour Sié, on est très heureux de vous accueillir ce matin au téléphone, vous allez bien?
Oui, bonjour Aïssa et bonjour à...
Bonjour Sié.
Bonjour. Vous qui agissez sur le terrain en tant que médiateur, est-ce que vous pouvez nous dire en gros ce qu'apporte l'interprétariat dans l'accompagnement à l'accès aux soins des personnes qui ne maîtrisent pas le français?
Alors, l'interprétariat est très important et capital d'ailleurs, parce que si les deux acteurs, le soigné et le soignant, ne se comprennent pas, les choses ne vont pas du tout avancer. Et il a dit quelque chose tout de suite, l'interprétariat, il faut prendre en compte effectivement la culture de la personne, ses croyances et représentations, parce que si on interprète littéralement, on peut passer sur beaucoup de choses.
Oui.
La façon de dire oui, ça dénature toutes les choses.
Alors vous,
oui. La manière qu'on dit oui et on dit un autre oui avec... le faciès,
oui.
Et ça peut, l'interprétation peut être différente. Donc, l'interprète doit effectivement prendre tout ça en compte, la culture de la personne, ses croyances et représentations, et la pathologie pour laquelle l'interprète est amené à interpréter auprès des soignants.
Au-delà de ça, il y a la mise en confiance aussi. Alors, comment vous vous y prenez lorsque vous improvisez interprète et que vous êtes un peu obligé de traduire lorsque vous trouvez face à une personne qui ne maîtrise que sa langue maternelle?
Alors, la confiance, c'est comme notre frère l'a dit tout de suite. Ça veut dire qu'il faut rassurer la personne qui a le secret professionnel. On est tenu au secret professionnel. Médical.
Vous leur dites.
Et c'est pourquoi d'ailleurs, sinon on pouvait faire appeler un de ses parents. Et comme on ne peut pas assurer le secret professionnel avec l'entourage, c'est pourquoi il a bien dit, c'est des professionnels qui sont formés et nous on met en confiance cette personne que.
Mais est-ce que ça ne braque pas justement la personne de se dire, bah, peut-être qu'elle vient du village d'à côté, qu'on se connaît, qu'on a des proches qui se connaissent les uns les autres? Est-ce que la personne ne se braque pas en sachant qu'elle est issue du même pays ou même de la même région ou même du même village?
Alors, ça, il y a des cas qui arrivent, mais quand même, on arrive quand même à mettre en confiance les personnes. C'est comme quand nous avons des patients qui ont besoin d'association quand effectivement on l'a dit, oui, il y a telle association qui accompagne, qui peut vous accompagner dans telle pathologie, effectivement, la première des choses, est-ce que je ne vais pas aller rencontrer quelqu'un qui me connaît là-bas? Mais c'est rassurer la personne que tout ce qui se dit ici, ça reste ici, ça ne sort pas de la structure de soins.
Oui.
Et que la personne est formée pour ça, et que professionnellement, la personne ne doit pas faire sortir les informations hors de l'hôpital, hors du bureau d'ailleurs.
Et d'ailleurs, pour compléter, oui, allez-y. Si vous permettez, ce que vous disiez est très exact, mais dans le cadre de la formation des interprètes, nous disons aux interprètes, nous te reconnaissons un droit au retrait. Si tu rencontrais une personne que tu connais, tu avertis les deux parties. Eh bien, on dit, cette personne, je la connais, peut avoir un conflit d'intérêt ou un malaise, je me retire. Donc, je ne peux pas assurer ça, appeler quelqu'un d'autre. Il est très important. Alors, c'est ce que, dès le départ, nous disons également à l'interprète, il faut expliquer, vous parlez de mise en confiance, pourquoi vous êtes, tu es là, l'interprète. C'est à la demande de l'institution, ici l'hôpital par exemple. C'est totalement gratuit pour la personne. C'est couvert par le secret médical, le secret professionnel. Et une fois qu'on a dit ça, nous parlons ici de devoir de transparence de l'interprète à l'égard du migrant.
Oui.
Nous rajoutons que l'interprète met en confiance avec bienveillance, avec écoute, en s'effaçant. C'est pour ça que le mot d'ordre chez nous, c'est le dialogue à trois.
Oui.
Le dialogue, c'est duel, c'est deux. Nous, nous rajoutons à trois, c'est une petite subtilité, en ce sens que l'interprète est là, sans être là, tout en étant là. C'est-à-dire qu'il ne se substitue pas aux deux parties,
oui,
qui doivent garder leur autonomie de décision et de dialogue. Nous, on est là juste en tant que facilitateur de la langue, et on voit que à la langue, évidemment, se rajoute la culture, à plus forte raison en situation de soins, où nous sommes extrêmement démunis. Et on a les références culturelles, les références religieuses, différentes d'ailleurs, d'un pays à l'autre, différentes dans le même pays, d'un âge à une autre, différentes en milieu urbain, en milieu rural, différentes selon que la personne ait fait des études ou pas, et l'interprète doit être ce magicien qui tient compte de tout cela pour
que le
message passe.
Alors, est-ce que les médecins, eux, sont formés à cette nouvelle façon de pratiquer la médecine ?
Oui et non. C'est très inégal. Il y a des médecins qui, naturellement, sont de très bons communicants. C'est, je dirais, ce qui manque un peu aux médecins en général, pas simplement ceux
qui... Des fois,
qui...
ils sont un peu surchargés, il y a du monde qui attend dans la salle d'attente. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment le temps ?
Là, il y a un vrai débat dans le corps médical, dans les formations. Donc, il y a des thèses en présence. Entre ceux qui pensent que, finalement, ils soignent la maladie... ils parlent au virus, ils veulent attaquer le virus, et d'autres qui pensent non, on soigne des corps vivants, des malades, des personnes. Donc il faut parler à la personne. Et aucun médecin d'ailleurs ne vous dira, positivement, tous les médecins nous disent que l'élément psychologique est déterminant.
Oui.
Et donc on peut pas solliciter la ressource interne du malade pour combattre la maladie s'il n'adhère pas au protocole de soins, s'il ne comprend pas donc ce qu'on lui dit. Et donc là, il y a un vrai sujet dans le corps médical en termes de formation des médecins, pour que le médecin soit pas simplement un technicien dans son jargon, ses instruments et ses écrans maintenant, mais que ce soit vraiment un homme ou une femme de communication qui met en confiance, qui amène l'ensemble de ses patients à comprendre et à adhérer au protocole préconisé, à plus forte raison pour ceux qui ne parlent pas le français.
Alors, nous avons une petite interview du docteur Delatour qui intervient une fois par semaine au Cévivi de Bichat et utilise l'interprétariat médical régulièrement. Elle explique ce que ça apporte à toutes les parties. On l'écoute rapidement, on se retrouve juste après.
Au début, en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je baragouinais un peu en anglais quand les personnes étaient un peu anglophones. Maintenant, on a la possibilité de recourir à l'interprétariat médical par téléphone. Et pour cela, c'est très pratique, hein. Ça prend quelques secondes, on a un traducteur très très rapidement. Là, pour le coup, on peut aborder plein de sujets qu'on ne peut pas aborder autrement. Accès aux droits sociaux, hein, où ils en sont. Est-ce qu'ils ont l'aide médicale État? Est-ce qu'ils sont au courant de l'aide médicale État? C'est vraiment des questions importantes parce que c'est une occasion dans le parcours de soins de ces patients, qui souvent passent de consultation en consultation, de pouvoir vraiment les informer de façon intéressante sur ça. Il faut vraiment leur expliquer pourquoi ils sont là et ça amène à poser des questions sur la sexualité. Est-ce qu'ils ont des relations? Est-ce qu'ils prennent des risques? C'est vraiment pour eux l'occasion de parler. C'est vrai que notre public cible, c'est aussi les publics qui sont en situation de vulnérabilité. Et vraiment, si on ne prend pas ce temps-là, on ne répond pas aux missions du centre de dépistage. Pour les patients qui sont très fermés, vraiment, on voit un soulagement, ça c'est très clair, hein, de comprendre que nous, on est à leur écoute. On voit que là, ils se détendent. Après, en plus, les traducteurs ont quand même un savoir-faire, donc peut-être ils font des références culturelles où ils ont des traits d'humour, etc., qui aussi permettent aux personnes de se détendre. C'est très important d'avoir quelqu'un qui est un peu un côté médiateur culturel. Et du coup, on peut les orienter vers les consultations spécialisées pour les personnes qui n'ont pas de papier. C'est vraiment l'occasion de les faire poursuivre leur parcours de soins en installant la confiance. Moi, j'ai eu des remerciements de patients, hein.
Alors, la question que je voulais vous poser, Aziz Tabouré, c'est qui appelle l'interprète? Comment ça se passe? Est-ce que c'est le particulier lui-même qui se met en contact avec l'interprète et qui le sollicite?
Non, pas exactement. Alors, c'est nous considérons que ce que nous faisons, c'est d'abord de donner au service hospitalier français le moyen de remplir la totalité de leur mission d'accueil et de soins avec bienveillance et qualité. Donc, c'est l'hôpital qui nous appelle. Donc, on est conventionné avec tous les hôpitaux de l'assistance publique en région parisienne, par exemple, et bien d'autres hôpitaux en France. Donc, c'est l'hôpital qui nous sollicite, soit par téléphone, immédiatement, en direct, dans toutes les langues. On couvre 182 langues et dialectes du monde, en tout cas du monde parlé en France, soit par un rendez-vous physique pour que l'interprète se déplace au sein de l'hôpital pour un entretien sur place. Et depuis 2 ans, nous proposons également des interventions par vidéoconférence.
D'accord.
Donc si quelqu'un est intéressé ou a besoin de l'assistance d'un interprète professionnel, qu'il le demande à l'hôpital.
D'accord.
Et l'hôpital se retourne auprès d'ISM pour, ou par téléphone ou par présence,
faire appel à vous.
Faire appel à un interprète.
Alors, vous êtes aussi à la recherche d'interprètes régulièrement?
Exactement. Donc, je profite de cette occasion. Nous, on est vraiment en direct sur l'actualité internationale, l'actualité française. On est sollicité de partout, y compris dans les dom-toms. Actuellement, nous sommes très sollicités à Mayotte. Voyez-vous, à l'autre bout de l'Afrique.
Ouais.
Mais ici même, en métropole, je suis vraiment à la recherche, et j'en profite de votre gentillesse pour lancer un appel aux auditeurs qui seraient intéressés. Nous recherchons des interprètes dans les langues africaines, dans les langues de l'Afrique de l'Ouest.
Le Mali notamment. Soninké, Bambara.
Soninké, Bambara, Malinké, tous les peuls et les langues de la Corne de l'Afrique.
D'accord.
C'est les besoins en tension actuellement.
D'accord. Alors n'hésitez pas, ism-interprétariat.fr si vous êtes intéressé. L'adresse c'est 90 avenue de Flandre, c'est dans le 19e arrondissement de Paris. Un numéro de téléphone 01 53 26 52 50, 01 53 26 52 50 si vous êtes intéressé. Alors si je vous laissais dire un tout dernier mot aux auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure?
Alors, bon, comme dernier mot, je trouve que c'est très bien la démarche, parce que l'interprétariat est incontournable dans la structure de soins, surtout si on est en face d'une pathologie chronique. C'est comme il a dit, on ne traite pas la glycémie ni le virus, c'est une personne qui est en face. Donc si on n'arrive pas à comprendre cette personne, on passe à côté de beaucoup de choses. C'est ce que je dis aux soignants souvent, quand on fait appel, oui, on ne comprend pas monsieur, on ne comprend pas madame. Est-ce que, donc, quand j'arrive, je dis, mais, docteur, cette personne n'a pas besoin de médicaments.
On vous entend très mal. Si Dieu nous reste 10 secondes, Aziz Tabouré, que vous avez envie de dire?
Eh bien, que ce service participe du droit de la personne. Plus que jamais, c'est en situation de soins que commencent les droits à la citoyenneté.
Merci, c'est la pause sur la radio africaine.